vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre le journal de ce 16 février 2021. L'avenir de l'opération Barkhane au menu du sommet ordinaire du G5 Sahel ouvert hier à N'Djamena au Tchad. Ornella Modéran, chef de programme Sahel au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest à Bamako, nous en parle dans un instant. La population de la région de Diffa confrontée à un problème de communication, les explications dans ce journal. En partie magazine, le manque de toilettes dans certains établissements scolaires dans la ville d'Agadez et ses conséquences sur plusieurs jeunes filles pendant leur période de menstrue. Hawa Momon au micro. Ouverture hier à N'Djamena, au Tchad, du 7e sommet ordinaire des pays membres du G5 Sahel et leurs partenaires. Cette rencontre vise à faire le point de la situation sécuritaire au Sahel ainsi que la coopération militaire franco-sahélienne. L'opération Barkhane demeure une pièce maîtresse du dispositif français, explique Ornella Modéran, chef de programme Sahel au bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako. Elle est jointe au téléphone par Mokhtar Amadou.
Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une impopularité grandissante de la coopération, tandis que l'insécurité demeure une réalité. L'année 2020 a ainsi été l'une des années les plus meurtrières dans l'ensemble des pays du Sahel central depuis l'éclatement de la crise en 2012. Dans ce contexte, beaucoup de voix s'élèvent pour interroger la pertinence d'un modèle de coopération qui est extrêmement coûteux en termes financiers, en énergie, même en vie humaine, puisque les attaques contre aussi bien les civils que les forces de défense et de sécurité restent fréquentes. Donc ce modèle qui au final semble ne pas forcément produire les résultats attendus. Les groupes extrémistes violents qui sont ainsi combattus continuent à prospérer et malgré la perte de quelques chefs charismatiques, semblent avoir conservé leur vitalité. Des attaques telles que celles intervenues récemment dans le centre du Mali montrent que les forces nationales restent en ce qui les concerne vulnérables.
Nous l'annoncions dans nos éditions hier, les usagers des téléphones de Guigmi et alentour dans la région de Diffa rencontrent depuis quelques semaines un problème de communication lié au réseau mobile. Une source de l'opérateur Airtel Niger, sous couvert de l'anonymat, a expliqué les raisons de cette situation qui prévaut dans la zone. Elles sont ici rapportées par Rahilatou Soumana.
Dans la région de Diffa, les localités de Ngingimi, Geskeru, Tumur, Barwa et alentour n'ont plus de réseau téléphonique depuis plus d'un mois, avec une faible couverture pour quelques endroits, a déclaré une source de l'opérateur Airtel Niger. Cette situation fait suite, selon notre source, à la destruction d'un de leurs sites à Geskeru par de présumés éléments de Boko Haram. La même source précise que 8 autres sites sont rattachés à ce dernier, ce qui expliquerait le manque ou la perturbation du réseau dans la zone. Selon lui, l'agent sous-traitant dépêché pour les réparations a été enlevé par de présumés éléments de Boko Haram le 13 janvier dernier aux environs de Geskeru. Pour l'heure, le problème de téléphonie mobile reste entier dans ces localités de Diffa, car selon l'agent d'Airtel, au vu du contexte sécuritaire, tenter toute opération de dépannage dans la zone mettrait en danger leur agent. Des pistes de solutions sont en cours d'inspection pour rétablir la connexion, rassure notre source qui a requis l'anonymat. À ce jour, l'agent enlevé n'a toujours pas été libéré.
Dans un communiqué publié hier par Maman Seyabou Issa, procureur de la République près le tribunal de Niamey, celui-ci met en garde les acteurs politiques, la société civile et l'ensemble des citoyens contre certains propos et déclarations tenus à l'occasion de la campagne pour le second tour de la présidentielle, rapporte le site de l'agence nigérienne de presse. Selon toujours la même source, les propos ont été répertoriés et leurs auteurs identifiés par le parquet. Ils répondront de leurs actes si ces propos et déclarations sont suivis d'effets, souligne le procureur. Justement, sur le communiqué du procureur de la République, partons à la découverte de la mission de celui-ci. Selon Maître Mustapha Hamidou, avocat à la Cour, la mission du procureur de la République est de rechercher et faire rechercher l'existence des infractions et décider de la suite à donner. Il est joint au téléphone par Habibou Garba.
Le procureur, c'est le magistrat du ministère public chargé de l'action publique dans le ressort du tribunal ou de la juridiction où il a été nommé. Il est assisté dans cette fonction par des substituts qui, avec lui, constituent ce qu'on appelle le parquet. Le procureur, en fait, il est nommé par le pouvoir exécutif. Sur proposition, bien évidemment, du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, mais là, il se trouve sous, en fait, les ordres du ministère de la Justice. Il peut, à tout moment, donner des instructions au procureur général qui, à son tour, va redescendre ses instructions au procureur de la République pour l'application de la loi pénale. Donc, le procureur de la République a pour mission de rechercher et de faire rechercher l'existence d'infractions et de décider des suites à donner. C'est lui l'organe de poursuite, en fait. Donc, lui, de lui-même, s'il arrive à constater la violation de la loi pénale, eh bien, il peut poursuivre.
Samedi dernier à Agadez, le comité de sages de la Commission nationale des droits humains, CNDH, dans une rencontre, a appelé les femmes, les hommes et les jeunes d'Agadez à maintenir un comportement citoyen en votant dans la sérénité le 21 février prochain. Khalid Ikri, président de la CNDH, au micro de Moussa Maman.
Nous nous sommes dit que pour que le 21 février 2021, les femmes et les hommes, les jeunes filles, les jeunes garçons en âge de voter, maintiennent cette attitude citoyenne et aillent choisir le candidat et qu'ils jugent être à même de satisfaire à leurs espoirs en tant que citoyens et qu'ils les fassent dans le calme, la non-violence et la paix, dans l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. Au niveau des réseaux sociaux, comme vous le savez, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Mais il faudrait travailler pour que les uns et les autres aient conscience du rôle qu'ils doivent jouer. En tant que citoyens, je leur demande de regarder d'abord le Niger avant de lancer l'information. Surtout, ne pas lancer, pas divulguer la fausse information.
À la veille du second tour de la présidentielle au Niger, prévu le 21 février prochain, Studio Kalangou vous propose de parcourir les programmes des deux candidats aujourd'hui. Dr Amadou Alahori Diallo, membre de la direction de campagne du candidat du PND Staraya, explique brièvement le programme de gouvernance de Bazoum Mohamed. Il est au micro de Tavnan Foudey Ahmed.
Bazoum Mohamed a élaboré un programme sur lequel il va construire toute sa gouvernance pour les 5 ans à venir. C'est le programme qu'on appelait programme Renaissance 3, consolidé, avancé, qui couvre tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale du pays. Il s'agit donc de consolider les acquis en matière de liberté démocratique, de liberté publique et en matière de démocratie. Les actions nouvelles vont viser d'abord à mettre en place un mécanisme de renforcement de la déontologie au niveau des médias. Comme vous le savez, les avancées ont été faites, mais nous constatons aussi qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, notamment au plan de la déontologie. Il s'agira aussi de travailler pour promouvoir une atmosphère sereine et apaisée dans le débat public, notamment créer les conditions d'un dialogue permanent entre les partis politiques, la société civile et les médias. Il s'agira aussi de revoir l'architecture du gouvernement. Et aussi un chantier très important, c'est la question de la corruption. Et là, le candidat Bazoum Mohamed voudrait combattre énergiquement la corruption à tous les niveaux de notre administration.
Les agents sous-traitants de la compagnie minière Dakuta à Kominak d'Ablit ont débuté hier une nouvelle grève illimitée avec service minimum. Selon Almou Gabdou, le secrétaire général adjoint du syndicat des sous-traitants, les négociations entamées n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes. Ils exigent des mesures d'accompagnement suite à la décision de l'arrêt des activités de la compagnie le 31 mars prochain. Il est joint au téléphone par Habibou Garba.
Les sous-traitants de Comec ici à Arlit, vraiment, ils sont en grève depuis hier. On a demandé une mesure d'accompagnement. Ce que Comec a écrit comme mesure d'accompagnement, vraiment, nous, on n'est pas satisfait.
Qu'est-ce qu'ils ont écrit comme mesure d'accompagnement?
Nous sommes au nombre de 800 et quelques personnes. Comec disait qu'elle va faire promotion de 100 permis A, B, C. Et aussi, elle va nous faire une formation bioéthique de 40 personnes, de 800. Et aussi, elle va nous donner des attestations chez nos entrepreneurs. Ils puissent nous payer notre droit légal. Les droits légaux, ce n'est pas quelque chose. Aujourd'hui, même si il y a dizaines de carrières, quand tu es sous-traitant, quand on calcule ton droit légal, ne dépasse pas 250 000. La base n'a pas accepté ça. Nous, ce qu'on attend concrètement des communautés, c'est que les communautés ont fait un papier pour dire que vous, les sous-traitants, vous aussi, voilà votre sort. Nous, on a demandé à Comec de donner 5 millions à chacun.
Dans le cadre de la construction de l'aéroport de Tillabéri, plusieurs personnes de la commune de Sakwara ont été expropriées de leurs champs. 2 ans après, elles n'ont pas encore été indemnisées par les autorités. Ces propriétaires menacent de regagner leur terrain s'ils ne sont pas mis dans leur droit, a indiqué Abdoulaye Moussa, membre du comité mis en place dans le processus de l'indemnisation. Il est joint au téléphone par Nafissa Adapou.
Ça fait 2 ans que les gens sont en tout cas dépourvus de leurs champs pour la construction de l'aéroport de Kilaberi. Les champs sont estimés à peu près à 117 voire 120. Les autorités ont promis une indemnisation à base de 750 francs le mètre lunaire. De là à peu près une sommation de 5 milliards comme ça. Jusque là, les gens sont dépourvus de leurs champs. Ils ne peuvent pas en tout cas accéder aux cultures. En tout cas, ces populations veulent dire que 2 saisons passées, la troisième, ils ne le laisseront pas passer, en tout cas sans une indemnisation. Au cas où ce n'est pas fait, ils vont occuper leur terrain parce qu'il y a d'autres qui ont même quitté pour l'exode. Bon, en tout cas, les négociations entreprises au niveau du gouvernorat avec le gouverneur de la région et il y a la préfet aussi. Et il y a même pris le chef de canton des fausses promesses, en quelque sorte. Il y a même, comment dirais-je, une audience en cours avec le Premier ministre, s'il le faut, même avec le président de la République.
Eh oui, vous êtes bien sur le studio Kalangou. Ne changez surtout pas de fréquence. Retrouvez bientôt nos nouveaux habillages sonores. Studio Kalangou, 5 ans d'activité au rythme du Niger.
Parti magazine, plusieurs établissements scolaires dans la ville d'Agadez manquent de toilettes dans leur enceinte. Ce problème constitue un frein au maintien de la jeune fille à l'école. Pendant leur période de menstruation, les jeunes filles sont obligées de s'absenter de l'école, suivant ce reportage de Tila Amadou rendu par Rabi Mekano.
Au Niger, de nombreuses écoles primaires ne disposent ni d'eau ni de services d'assainissement. Quand bien même des toilettes existent, les cabinets pour les garçons et les filles ne sont pas séparés. À Agadez, cela reste l'un des principaux obstacles à l'éducation des filles. Pendant leur menstrue, certaines manquent des semaines de cours par an pour manque de sanitaire dans les établissements. Une situation que déplore Chanette Ibra Khalid, élève en classe de terminale au CES Moumouni Germakoy.
Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de dispositions mises à leur place, surtout dans les douches, dans les latrines, pour se faire changer. Ces jeunes filles, au moment où c'est leur période, leur cycle menstruel, ils ne savent pas comment faire pour se changer. Peut-être il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de kit d'hygiène pour qu'ils se changent. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Et elle abandonne l'école. Pour d'autres, quand ils voient cela pour la première fois, ils se disent « Ah, c'est fini, c'est quelque chose de grave qui les a arrivé. » Ils ne savent pas. D'autres prennent des jours même qu'ils ne viennent même pas à l'école.
Pour la surveillante de ce complexe d'enseignement secondaire, les responsables d'établissements scolaires et les partenaires ont le devoir de prendre des mesures pour rendre les toilettes accessibles et conformes au respect de l'hygiène. Ainsi, beaucoup de jeunes filles seront maintenues à l'école. Laria Isaka.
Nous, les surveillantes, peut-être nous pouvons vraiment gérer l'affaire. La petite fille n'a pas besoin de se rendre chez elle parce qu'il y a des filles qui vont chez elle. Elles restent pendant des jours parce qu'elles peuvent avoir des dysménorrhées, elles peuvent avoir des maux de tête et autres. Donc, qui va la pousser à rester chez elle. Mais dès qu'on aura ce dispositif au niveau des écoles, je pense que la fille peut bien suivre ses cours dans le même établissement.
De nos jours, l'accès à l'éducation des filles est étroitement lié à la disponibilité des toilettes décentes dans les écoles.
Le forum de ce soir, femmes et élections, la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, ce sera avec Sabira Rouafi.
Vous êtes bien sur le studio Kalangou. Ne changez surtout pas de fréquence. Retrouvez bientôt nos nouveaux habillages sonores. Studio Kalangou, 5 ans d'activité au rythme du Niger.